L'amitié par les enfoirés, chanson superbe qui va bien aussi avec cette belle chaîne de solidarité qu'on vous propose encore jusqu'à ce soir, ce marathon des restos depuis vendredi soir. Les informations, car il est midi, chers amis, sont présentées par les étudiants de l'Egencia.
Radio Resto.
48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.
Relevons le défi.
Au sein des Restos du Cœur, il y a des personnalités exceptionnelles, des femmes et des hommes engagés depuis la création de l'association. Je m'appelle Maxence et avec mon confrère Jarod, nous sommes allés à Gennevilliers, à quelques pas du terrain vague où tout a commencé.
S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Cette voix, vous l'avez reconnue, c'est celle de Coluche, le fondateur des Restos du Cœur. Cet appel, il l'a fait le 26 septembre 1985, il y a donc bientôt 40 ans. Quelques semaines plus tard, le premier centre des Restos du Cœur ouvrait à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Françoise, l'une des bénévoles, s'en souvient.
Quand ça a débuté, je sais que je me rappelle, j'étais jeune et avec ma maman, on avait donné tout de suite, on avait fait un petit chèque pour le début des restos. Et moi, je trouve ça bien de pouvoir aider les gens et tout. Ça fait du bien à nous, ça fait du bien à eux aussi, un petit peu du moins.
Bonjour ma petite dame. Eh ben voilà, regardez. Ça va aller ? Allez, je vous souhaite une bonne journée puis bon week-end.
À Gennevilliers, les bénévoles distribuent de la nourriture, bien sûr, mais aussi des vêtements, des fournitures scolaires et des appareils électroménagers. Les demandes cessent d'augmenter de jour en jour, comme nous l'explique Francis, directeur du centre.
Régulièrement, de toute façon, ça augmente. Comme on parlait tout à l'heure, faire ses achats, ses courses, ça coûte cher. Les prix augmentent sans arrêt. Donc oui, effectivement, on a de plus en plus de bénéficiaires. Parce que c'est chaque distribution, le mardi ou le jeudi, on a, on va dire sur une semaine, même si ce n'est pas important sur un centre comme Gennevilliers, mais on a une dizaine d'inscriptions par semaine. C'est quand même énorme à notre époque.
Vous l'aurez compris, l'association doit s'adapter pour répondre aux besoins croissants. C'est désormais tout un réseau d'entraide et d'accompagnement qui s'organise pour faire face aux réalités de la vie des plus démunis. Au total, ce sont 10 000 personnes qui sont accueillies dans les Hauts-de-Seine.
Radio Resto. Saison 5.
Radio Resto saison 5, oui, déjà. Merci à Laurent Petit-Guillaume de nous avoir associés à cette magnifique opération de solidarité. Depuis vendredi soir, c'est 48 heures, ce marathon radio en faveur des plus petits, des démunis en France. Malheureusement, ils sont 126 000 bébés de 0 à 3 ans. C'est une précarité qu'on se doit de combattre parce qu'elle est terriblement injuste et y participer à ce soutien, c'est faire un don très simplement sur le site radio.restoducœur.org. Vous pouvez aussi appeler le standard 01 850 90 600, faire un don pour ces restos bébés notamment, avec au moment où on vous parle, les amis, midi et 4 minutes exactement, 404 000 euros, 845 euros donc collectés, en présence d'Alain Marchal qui vous éclaire tous les jours sur RMC, BFM, avec l'ami Patrick Cohen, France Inter notamment, et Rembobina, magnifique émission sur LCP, avec Bruce Toussaint qui vous réveille le matin sur TF1. Bonjour. Vous êtes avec nous tous les trois pour nous raconter aussi un petit peu les ficelles du métier. Vous avez commencé à le faire avec pas mal d'anecdotes à la clé. Ça intéresse nos auditeurs qui ont aussi des questions à vous poser. Et nous sommes avec vous, cher Fabrice. Bonjour Fabrice.
Bonjour Wendy, bonjour messieurs.
Déjà, bonjour Fabrice. Merci déjà infiniment. Vous l'écoutez comment, Radio Resto?
YouTube, parce qu'il y a l'image, oui. Et sinon j'écoute beaucoup Radio Player, parce qu'en fait Radio Player, il y a toutes les radios. Mais alors,
c'est vrai.
Super appli. Ouais.
Et donc là, vous nous voyez en vidéo là.
Et j'ai connu Radio Player, alors non, pas en ce moment, puisque je vous ai à l'oreille, mais Radio Player, j'ai connu Radio Player grâce à Radio Resto.
Voilà. Ah bah bravo, super. Donc c'est une édition que vous connaissez, vous l'avez suivie les années passées, c'est la cinquième saison, vous le rappelle.
Oui, depuis la première année en 2020. Voilà.
Bah, bravo, bravo à vous, Fabrice. Est-ce que vous avez donné un petit peu cette année?
Oui, j'ai donné hier. Voilà.
Eh ben bravo, on vous rappelle. Ben,
bravo à vous surtout, bravo à Laurent Petit-Guillaume, bravo aux employés du Studec, enfin aux employés.
Ils sont tous là, ouais, ces jeunes. Ouais. Et nous avons notamment aujourd'hui pour nous entourer Shannon et Kenny. Ils sont étudiants. On est accueillis dans ces magnifiques. Non, il est plus étudiant, Kenny. Il est professionnel. Pardon. Non, mais tu as fait tes preuves ici? Ou pas du tout.
Oui,
un petit peu. Au Studec, voilà, Studec, c'est les Gensia. On est à Paris dans le 17e arrondissement, mais on irrigue dans la France entière. Et Fabrice, bon, merci déjà de prendre un tout petit peu de temps pour nous appeler. Merci aussi d'écouter cette radio et de diffuser le fait qu'il faut écouter. Vous avez une question pour nos amis ici présents?
Alors oui, je voulais savoir, alors pour vous qui travaillez sur de grosses radios, donc Europe 1, RTL, RMC, quel regard vous portez sur les médias alternatifs, notamment qu'on voit beaucoup sur YouTube, les chaînes d'infos politiques, globalement, quel regard vous portez en fait?
Si vous voulez, nous on est des enfants du pluralisme, hein, donc moi je suis tout à fait pro autre média qui peut donner la parole. Après, la seule chose qui me dérange, c'est quand le média alternatif se présente comme la vérité alternative. Oui. C'est là où moi j'ai du mal. Si vous donnez d'autres opinions, si vous êtes là à inventer, à innover, super, allons-y. Et nous, dans les grandes gueules, je me souviens qu'on avait l'un de nos chroniqueurs qui s'appelle Valéran Moulet-Berthaud, qui est le créateur du média Le Crayon sur YouTube. Mm-hmm. Je pense que vous connaissez, Fabrice.
Oui.
Le crayon. Bon, ben, le crayon, c'est une autre manière de présenter l'info, d'accueillir les invités politiques. Avec ça, j'ai aucun problème. Après, où je suis un peu plus embêté avec ce qu'on peut lire sur YouTube ou parfois sur Twitter ou autre, c'est quand on vous dit, nous sommes un média alternatif et heureusement que nous sommes là parce que ce que disent les autres, ils vous mentent, voilà, et c'est nous qui avons la vérité. Ouais. Et là, juste. Moi, ça me pose problème, Fabrice.
Je peux vous demander, Fabrice, avant de donner la parole à Patrick et à Bruce, quels médias alternatifs vous plaisent et lesquels suivez-vous?
Alors particulièrement, j'adore Pure Politique de Serge Faubert. Voilà.
Ah oui.
Pure Politique, tu connais ça?
Je ne connais pas Pure Politique, mais je connais bien Serge Faubert, avec qui j'ai travaillé notamment comme reporter politique. Voilà, et Serge Faubert qui est passé par le Média aussi.
Okay. Ça ressemble à quoi? Parce que je ne connais pas
du Média.
Pure Politique, Fabrice, ça ressemble à quoi?
Alors, ça part du Bourbon de Serge, en fait. C'est qui donne des infos surtout la politique dans l'Hexagone. En fait.
D'accord.
Ça parle, il parle que très rarement de politique internationale, en fait.
Mm-hmm.
Voilà. C'est surtout le lundi, le jeudi, voilà.
C'est des rendez-vous, ce sont des rendez-vous.
Ce sont des rendez-vous, ouais, le soir, donc voilà. Donc ça complète un petit peu, voilà. C'est plutôt bon pour moi qui suis plutôt je vous le cache pas, hein, je suis plutôt d'une certaine tendance politique.
Oui.
Je vous cache pas que voilà, c'est plutôt ma tendance politique. Après voilà.
Ça veut dire quoi, Fabrice? Ça veut dire que vous ne vous y retrouvez pas dans les médias traditionnels, si j'ose dire, à la fois à la télévision, à la radio. Vous avez besoin d'autre chose?
J'écoute beaucoup à la radio. J'écoute souvent. Alors moi personnellement, j'écoute souvent France Bleu. Le local.
Eh ben, super. Oui.
Et donc voilà. Après, je peux écouter, voilà, sans forcément porter plus de jugement que ça. Voilà, mm-hmm. Je suis pas non plus. J'admire ce que vous faites globalement. Voilà, quel que soit le journaliste.
Le média qu'on reprend, ça nous touche déjà.
Voilà.
Et écoutez, sur la question que vous posez sur les fameux médias alternatifs, Patrick Cohen, vous voulez.
Oui, entièrement d'accord avec Alain. J'aurais pu employer les mêmes phrases et les mêmes mots exactement. Il faut pas opposer les uns aux autres. Il faut entendre les opinions qui peuvent venir de partout. Après, ce qui est important de rappeler et de faire comprendre aux auditeurs qui ont la gentillesse de nous écouter ce matin, c'est que l'information, ça coûte cher. Mmh. Ça demande des moyens. Mmh. L'information, le reportage, la vérification des faits, des sources, tout ce qu'on peut développer pour nourrir des bulletins, des journaux, ce sont des moyens. Et donc, voilà, par définition, les médias alternatifs ont moins de moyens, ont peu de moyens. Ils peuvent faire entendre des opinions différentes, des alertes. Ça, c'est très important, évidemment, d'avoir des témoignages et de lancer des alertes sur des sujets en particulier. Mais ça ne peut pas remplacer. En tout cas, évidemment, parfois, ça m'inquiète un peu quand je croise des gens qui n'écoutent,
qui ne jurent que par ça,
que des radios ou des chaînes YouTube ou autres d'opinion, sans se se rapporter d'abord aux faits, aux déclarations véritables telles qu'on peut les rapporter, et au travail journalistique qu'on peut réaliser sur nos antennes respectives.
Au prétexte que la vérité n'existerait pas ailleurs, ça, il faut faire attention. Bruce Toussaint.
D'abord, en préambule, effectivement, ce que dit Alain est très juste. Voilà, moi, je supporte pas le procès permanent fait aux médias traditionnels. C'est normal, puisque j'en suis un des visages. Moi, je trouve qu'il y a un mot important dans notre métier pour bien comprendre notre métier, c'est généraliste. Voilà. Donc, nous, notre métier, c'est généraliste. On parle à tout le monde. On parle aux jeunes, on parle aux vieux, on parle aux trentenaires, aux quarantenaires, on parle aux gens de droite, aux gens de gauche, aux gens d'extrême droite, aux gens d'extrême gauche, aux extrêmes centristes. On parle à tout le monde. Après, moi, ce qui m'intéresse dans les médias alternatifs, c'est les formats et l'hyperspécialisation. Ce que nous, on ne peut pas faire. Je donne deux exemples très concrets. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans la vie. Ça vous fait rire. C'est le PSG et la bouffe.
Ah ben voilà.
Voilà. Ah, dit oui.
Alors, je vais vous dire, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de médias traditionnels qui peut vous offrir 24 heures d'antenne sur le PSG.
Bah, France Bleu Paris, Bruno Salomon.
Pas 24 heures.
Pas 24 heures, bien sûr.
Donc, il y a des médias sur la bouffe qui sont particulièrement ciblés et qui vous proposent des formats. La bouffe. Je vais vous citer un truc. Moi, par exemple, je passe trop de temps d'ailleurs sur
Instagram. D'ailleurs, vous avez faim parce qu'il est midi 11.
François Simon, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, critique gastronomie.
J'adore, Tribune Dimanche aujourd'hui.
La Tribune Dimanche, etc. Tous les jours, il fait une vidéo sur Instagram.
Retournerai-je.
Il dure 40 secondes, qui ne peut être que sur Instagram. Il n'y a pas d'autre endroit où ça peut exister, parce que ça dure 40 secondes, parce que ce n'est pas fait pour être une émission de télé,
YouTube,
etc. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça doit servir à ça. C'est que tout ce que nous, on ne peut pas faire ou on ne sait pas faire, eh ben, doit être... Donc François Simon, en gros, il va dans un restaurant, il se filme en caméra subjective en train de manger, il dit, voilà, les plats sont bons, sont dégueulasses, etc.
Ouais, et on ne le voit jamais.
Et est-ce que je vais y retourner? Oui, non. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça doit servir à ça. Sinon, et puis les dernières choses.
Ce sont des médias à la carte.
C'est alternatif. C'est pas très subversif là, en l'occurrence.
Non. Bah, alors il y a des choses plus subversives. Je donne un exemple très concret. Guillaume Play, vous voyez qui c'est ce garçon?
Ouais,
il y a un truc qui s'appelle Legend Media. Donc c'est des interviews au long cours qui durent 2 heures. Voilà, très bien. Il a fait cet été, tout le monde en a parlé, une interview d'un platiste. C'est un mec qui vient vous expliquer très sérieusement, et pendant 2 heures, que la Terre est plate. Y a pas, ce mec-là n'a pas sa place dans C'est à vous, dans la matinale de TF1 ou dans les grandes gueules, évidemment. Parce qu'on nous prendrait, on serait accusé d'être des cerveaux
question,
malades,
c'est,
pour reprendre une expression célèbre de Patrick. Eh bien, pourquoi pas?
Si
ça peut avoir sa place dans ce format, et moi je dis pourquoi pas, j'en ai regardé quelques extraits, ça m'a fait marrer, etc. Et je me dis, bon ben au moins ça existe. Donc pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, oui c'est bien, non c'est pas bien, c'est juste qu'il faut faire le tri.
Oui, voilà. Vous parliez de platistes, il y a aussi tous ces médias complotistes. Il faut faire le tri aussi.
Oui,
non, mais
là,
parce que les médias alternatifs,
c'est
aussi beaucoup.
Par la loi, là, on est dans autre chose.
Le platisme fait partie du complotisme.
Oui.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Bon.
Mais enfin, posez-vous la question.
Je rigole.
En tout cas, la table du bureau, elle est plate.
Il y a eu un sondage il y a quelque chose comme 5 ou 6% de la population qui pense que la Terre est plate.
Français.
Et que le PSG peut gagner la Ligue des Champions aussi.
Je ne sais pas qui sont les plus dingues.
Mais ils sont platistes d'ailleurs.
Est-ce que, cher Fabrice, on revient à Fabrice qui a la gentillesse de nous appeler. Est-ce que, cher Fabrice, vous avez des réponses intéressantes à votre questionnement, à votre manière, vous, de consommer l'information telle qu'elle a été apportée par Bruce Toussaint, par Patrick Cohen, par Alain Marchal?
Tout à fait, j'ai bien aimé, merci beaucoup.
Ouais. Bon, qu'est-ce que vous écouterez là, une fois que vous avez fini Radio Resto?
Après Radio Resto, vous voulez dire?
Ouais, vous avez des petites marottes comme ça le dimanche. Enfin, vous nous citiez déjà quelques médias que vous retrouvez les lundis, le jeudi. Vous êtes un petit peu concocté votre menu?
En matière de radio, en matière de médias, en matière de...
Ouais.
Alors, que ce soit musical, personnellement, moi, c'est FG que j'adore. Parce qu'il y a un bon programme musical le dimanche matin quand j'écoute pas.
Ouais, super.
Et puis RTL aussi souvent le week-end. C'est très musical. Info, c'est rare pour l'info. Donc moi, c'est souvent, je ne vous cache pas, c'est que ce sont les médias alternatifs. Et puis télé aussi, j'aime bien par exemple une émission qui s'appelle En aparté.
Ah oui, c'est une très belle émission. Avec l'ami Nathalie Lévy, Média Alternatif, la musique, la proximité sur France Bleu. Merci de cocher toutes les cases qui nous vont bien aujourd'hui, cher Fabrice. Merci vraiment pour votre appel et puis pour votre contribution. Vous
merci,
qui êtes...
Merci
beaucoup Fabrice, un des donateurs de cette cinquième saison, 405 000 euros collectés depuis vendredi soir grâce à votre générosité, grâce à cette chaîne de solidarité Radio Resto. Et puisque vous parliez de pause musicale, on vous en offre une avec Clara Luciani. Respirons, respire encore. Clara Luciani respire encore pour vous accompagner, pour accompagner le trio de choc qui est à mes côtés, Alain Marchal, Patrick Cohen, Bruce Toussaint. Bah, pendant la musique, on évoquait quand même dans la poursuite de votre anecdote sur François Simon sur Instagram, le rapport que vous aviez. Ça peut intéresser aussi nos auditeurs aux réseaux sociaux, très brièvement, mais parce qu'on est en droit de se dire, quand on est journaliste, est-ce qu'on a un compte? Qu'est-ce qu'on en fait de ce compte? Est-ce qu'on est sur Twitter, sur l'info? Est-ce qu'on est sur Instagram? Qu'est-ce qu'on poste? Qu'est-ce qu'on relaie? Vous avez quelle philosophie?
Alors moi, je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai beaucoup tweeté.
C'est un compte, pardon, certifié Grande Gueule.
Oui, c'est un compte
si
certifié,
compte
c'est Alain Marchal, oui. Journaliste BFM TV, RMC. Après, il y a le compte des Grandes Gueules. Olivier Truchot, mon camarade de
il
jeu.
Tweet, tous les...
ouais, lui, il Olivier est, ouais. tweet et ouais. il envoie beaucoup, il ça envoie. L'éclate, il adore. Moi, au bout d'un moment, Pepito 70 ou Cacao 23 qui n'arrête pas d'insulter, ça me gonfle
on
un peu.
On adore l'anonymat.
Donc,
bien sûr.
Ce que oui. je fais, c'est je relaye beaucoup sur Twitter ce qui est dit dans les GG, dans les Grandes Gueules, sur BFM TV. De temps en temps, je me fends d'un tweet. Mmh. Et je reste là, je suis pas là à le consulter très régulièrement. En revanche, j'ai un compte Instagram que je maintiens en privé, où je connais à peu près tous ceux qui me suivent. Et là, comme je suis privé en compte fermé, bah, je mets les voyages, la bouffe, le vin, les trucs qui me font plaisir. Voilà. Et ça se limite à ça.
Non, et pas plus que ça. Et vous n'avez pas de directive de vos patrons, de votre direction sur il faut relayer ceci, il ne faut pas dire trop cela. Olivier Truchot n'aura jamais rappelé à l'ordre.
Non.
Il y a à la fois une liberté dans les deux sens.
Oui, hein. complètement. Après, on n'est pas idiot. Il ne faut pas déraper sur Twitter parce que d'abord, on est employé, on engage une marque, on engage notre
bien
nom.
Sûr, ça va vite, hein. Ça va vite parce qu'on peut se prendre
faire attention.
Jeu. Bon, je connais votre position très bien, Alain Marchal. J'ai regardé vite fait votre compte Instagram, Bruce Toussaint, 18 000 followers. C'est pas mal, ça pourrait être bien plus, mais vous l'alimentez un peu ou pas?
Et compte tenu
pas mal de calories sur le
compte. Pas trop.
Non, il n'y a pas trop de Bruce Cuisine, non?
Non, mais compte tenu quand même de ce que je représente dans la société française, je pense quand même que je pourrais avoir plus de followers. Mais bon, écoutez, c'est comme ça.
Il faut
une
faire
injustice.
Ce qu'il faut pour ça, monsieur.
De plus.
Non, mais en fait, ça nous intéresse.
Non, c'est
pas.
Très fréquent. Moi, je suis très. Alors, deux choses. Moi, j'ai un compte Twitter depuis 2011. C'est quand je suis rentré à Europe 1 à l'époque. Donc, j'ai énormément d'abonnés sur Twitter. Bon, c'est un cauchemar, parce que Twitter est devenu malheureusement ce qui était pour moi pendant très longtemps à la fois un fil d'infos, d'opinions, mais aussi de... je sais pas, une espèce de petit village, quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Ouais, c'est intéressant, ouais.
Est devenu complètement autre chose, c'est un lieu de révolte, de débats complètement incontrôlables, et c'est devenu un... C'est entre le piquet de grève et la manif, quoi.
Et ça s'est pas arrangé depuis la transformation de Twitter en X.
Donc
hein.
Bon, il n'y a pas de problème. Donc moi, en gros, j'y vais de moins en moins. J'ai ce compte qui est là, qui est très, très, quasiment dormant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses par rapport à ce qu'on peut vivre et subir, pardon de le dire, et ce n'est pas pour me plaindre, parce que ça serait un peu ridicule quand on parle ce week-end dans cette opération des gens qui sont vraiment dans le besoin, des familles, etc. Mais bon. Disons les choses. Premier problème, c'est les gens qui, sans aucune conscience de ce que ça peut représenter, vous engueulent et vous insultent sur les réseaux sociaux. On peut se dire, après tout, ça fait partie du job. Bon, je suis pas sûr. Moi, j'engueule pas mon boucher, j'engueule pas mon pressing.
Puis si vous le faites, il sait qu'il a devant lui.
Voilà. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les raids numériques. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça existe, hein. Faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Donc les raids numériques, c'est quoi? C'est par exemple une interview qui se passe pas très bien,
oui.
avec un invité, en général d'extrême gauche ou d'extrême droite, on va quand même dire les choses telles qu'elles sont, et après, vous avez, attention,
un déferlement.
C'est pas des petites choses, hein. C'est des centaines, des milliers de messages d'insultes et de menaces.
Louis Alliot récemment?
Alors, Louis Alliot. Ça a été, c'est surtout du côté Éric Zemmour que j'ai eu des gros soucis.
Ouais.
Et puis côté Insoumis éventuellement, mais plus rarement.
Donc, on est dans une forme, pardon, de harcèlement numérique.
Alors,
hein,
là, en fait, il faut dire les choses, hein, c'est comme ça. Et alors, ce qui est encore plus frappant, c'est que sur X, les comptes sont anonymes, la plupart. 99% des comptes sont anonymes dans les gens qui vous insultent. Bon. Sur Instagram, c'est pas la même histoire. Sur Instagram, vous avez les gens qui sont en photo avec leur femme et leur gosse en vacances, Laurent du 83, et qui vous envoie « je vais te crever, espèce de salope », mais je vous pardonne de dire ça comme
arrivé.
Ça, mais bien sûr, ouais. mais des dizaines de fois.
Au grand jour,
mais,
en quelque sorte.
Mais, mais de façon complètement décomplexée. Parce que en fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que ces gens considèrent que, après tout, ça fait partie du job d'être, de se prendre ça. Mais enfin, c'est grave. Il y a eu de très très nombreux. Alors, j'ai fait beaucoup de signalements, etc. Mais il y a une inconscience de ce que ça peut représenter.
Au fond, il y a plus d'inconvénients
aujourd'hui.
Comme
si au fond, on était une espèce de statue. J'en sais rien. Je ne me l'explique pas, en fait. Et c'est un vrai sujet. Donc, je vous avoue que, alors, j'ai longtemps fermé mes messages sur Instagram. voilà, pour pas être emmerdé.
C'est dommage parce qu'il y a une irrationalité numérique. C'est tellement important, par exemple, de relayer une opération comme nous faisons aujourd'hui. Et les réseaux sociaux nourrissent, évidemment, cultivent ces dons. Et puis, il y a l'autre côté, le revers terrible de ce jeu-là, auquel vous n'avez pas envie de souscrire. Patrick, vous tenez assez éloigné des réseaux sociaux. Hein.
Très, très éloigné. J'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok. Et j'ai un compte Twitter qui me sert simplement à
relayer,
à scroller, à regarder. Donc, je me sers de Twitter pour comme fil d'infos, parce que il y a beaucoup de journalistes, de responsables politiques, de leaders d'opinion, etc. Donc ça, c'est évidemment, c'est utile de regarder, mais je me limite à ça pour un gain de temps aussi, parce que c'est terriblement chronophage.
Absolument.
Donc tout le temps que vous passez sur les réseaux, vous ne les passez pas à lire la presse, le travail journalistique de vos confrères, des livres, enfin toutes les choses qui peuvent vous nourrir d'une autre façon. Et puis une règle aussi que je me suis fixée, c'est de ne jamais taper mon nom sur l'un de ces réseaux pour voir ce qui sort.
Ouais, ouais.
Je ne le fais pas. Quand ça arrive de temps en temps, quand mon nom apparaît entêté...
C'est en général quand tes revues de presse ou tes éditos sont très très vus.
Twitter, oui, voilà.
Donc ça, c'est plutôt favorable.
Je regarde comme je clique dessus pour voir ce qui sort et quelle est la tendance. Mais c'est une façon de se protéger aussi. Voilà.
Oui, on en a, pas force. Enfin, on en a besoin professionnellement. C'est toujours ce juste milieu qu'il nous faut trouver. Mais si, chers amis qui nous écoutez, ou vous nous envoyez des petits messages en privé, ou vous nous reliez, etc., et qu'on vous répond pas forcément, ce n'est pas de l'impolitesse nécessairement. C'est le fait qu'on a pas mal de comptes dormants ou qu'on s'en sert à d'autres fins. Et voilà, n'y voyez pas ici d'inconvenance. Mais on fait un petit peu comme on peut avec ces outils numériques. On est ensemble jusqu'à 13h. Et ben, le temps file, les amis. Et si vous voulez bien, puisque vous parliez un petit peu de la manière, de la vocation, la manière dont vous êtes entré dans ce métier, les premières radios libres qui vous ont guidé, c'est quoi la photo que nous nous montre Alain Marchal un beau barbecue
mon cousin à Nice,
à midi 27,
avec qui on partage la même passion du barbecue et qui m'envoie une photo, Franck, que j'embrasse, mon cousin, c'est mon voisin à Nice, il m'envoie une photo d'une bavette, à mon avis, qui doit faire 1,2 kg parce qu'on va chez le même boucher. Et en fait, alors, je t'explique, Bruce,
j'arrive, dis-leur que j'arrive.
On prend une bavette qui fait 1,2 kg, 1,3 kg, tu la prends la veille, si tu veux, et tu commandes ça sur des sites internet, des épices américains, etc. Ouais. On la barbouille, tu vois, d'épices américains avec un peu d'huile, on la laisse reposer 24-36 heures, et puis après, tu la mets sur le barbecue, mais braise basse. C'est-à-dire, quand tu allumes, je dis ça à Patrick Cohen,
charbon
qui comprend
bas,
rien.
Ouais. Charbon
que...
bas.
Oui, ah ben, mais t'es fou ou quoi? Pas plancha ni rien. Donc, quand tu allumes un barbecue, tu allumes ton charbon avec un petit peu de bois et des sarments, donc tout de suite ça devient incandescent. Donc, la braise monte, elle monte, elle fait un pic, et puis ensuite, au moment où elle redescend un peu en température, c'est là que tu mets ta viande et t'attends 2-3 minutes de chaque côté. Et puis après, tu la slices. Achète un très bon couteau, Patrick.
Couteau, c'est très important.
Je ferai tout. Charbon ou galet?
Alors, les pelets ou le charbon?
Allons au bout de la conversation.
Le charbon basique.
Parce qu'on a l'air en mariage, avec, là,
j'ai fait s'abonner Bruce sur Instagram.
Ah bah oui.
Des comptes
de barbecue.
Steak Chanel.
Ah bah là, je peux vous dire. Et alors attendez, ils ont une.
Comment on est arrivé là,
pote? Attends, c'est le bon Dieu en culotte de velours.
Ils ont une matinale sur Steak Chanel.
Attends, Steak Chanel, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne dédiée au barbecue?
Oui, Steak Chanel.
T'en as des milliers. Il y en a
beaucoup. Toute la journée, t'as des gars qui cuisinent des morceaux de barbecue et qui postent sur Instagram.
Je vois que le véganisme n'a pas gagné ce milieu.
Non, on n'y est pas là.
Ouais, quand même.
Je te jure. Steak Chanel.
Ben ouais, donc ça, c'est une chaîne payante.
C'est sur Insta.
D'accord. Ok, bon, il y a Hervé Cuisine qui est très bien.
Et chaque année, il y a le salon du barbecue à Paris. Je vous conseille d'aller, qui est vachement sympa. Tu rencontres. Mais c'est vrai, c'est génial.
Appelez Laurent Petitguio pour nous sortir de l'antenne.
Est-ce qu'il y a des plans de chat au salon du barbecue?
Mais bien sûr, mon barbecue.
Bien sûr, t'es plutôt plans de chat
qui cuisent bien.
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Il y a des usages différents.
Absolument.
tu vois. Les, bah, pour les particules fines.
Il y a des choses que tu
fines.
Peux pas faire sur barbecue.
Ouais, voilà.
Les, quoi. Les, bien sûr, les légumes. Les légumes, pas les sur légumes. Barbecue. Voilà,
si tu peux, tu peux très bien. Si tu peux,
tu mets une plaque sur ton barbecue.
Tu peux mettre une plaque, ou alors au moment où c'est assez bas, peu en chaleur, tac, tu coupes ton poivron en deux, tu mets
burger.
Attends, Kenny, vas-y. Qui nous force
bras zéro, c'est la tendance.
Qui prend le relais à 13h?
Philippe, il y a deux avec la cuisine.
À la cuisine, magnifique. Tu vois, tu as amorcé le truc, c'est parfait, Alain Marchal. Parce que nous, je vous rappelle qu'on doit un petit peu expliquer les coulisses de l'info. Donc l'information culinaire, elle est parfaitement établie et gérée ici. Je vois, on a deux experts.
Les cuisines de l'actu.
Les cuisines de l'actu. Non, est-ce que vous pouvez nous raconter, je saute du coq à l'âne, mais la rencontre avec une personnalité, une star, qui vous a marqué à vie? Parce que quand on entre dans ce métier, on est souvent,
souvent
confronté
décevant,
à des rencontres,
hein,
parfois décevantes, mais parfois on a des graals. On entre dans ce métier pour interviewer un tel, et puis on a des, voilà, on a des envies, on a des succès, on a parfois des déboires. Alain Marchal, est-ce qu'il y a voilà, une rencontre qui t'a marqué, qui t'a ému et qui t'a pas déçu?
Alors attends, celles comme ça qui me viennent spontanément. Jeune journaliste, j'ai eu la chance de faire une interview à la volée au Festival du film italien à Nice de Sergio Leone.
Magnifique.
J'avais 22 ans, on m'envoie à l'aéroport de Nice en disant ils sont en train d'arriver, vois un peu qui tu peux attraper. Et je vois un petit bonhomme, un peu rondouillard comme ça, qui arrive au tapis. À l'époque, tu pouvais rentrer comme ça dans les aéroports, tu n'avais pas tous les contrôles qu'il y a aujourd'hui. Et je vois un petit bonhomme qui arrive et qui va chercher sa valise et qui attend au tapis roulant de sa valise. Je dis, mince, c'est Sergio Leone. Il n'y a pas de garde du corps, personne. Il avait juste sa secrétaire, il n'y avait pas de téléphone
Thierry Marc
portable.
Sera là à partir
et
de
donc, si tu veux, j'arrive près de lui, je lui dis, maestro, prego. Puis il me dit, non, mais je parle français, il n'y a pas de problème.
Oui,
et donc, j'ai fait une interview comme ça de 3-4 minutes de Sergio Leone. Autre rencontre qui m'a marqué, alors ça c'est le fan de rock que je suis, c'est de quelques interviews, notamment de Tony Joe White, interview de Steve Bator, ça c'est un chanteur punk qui était le leader des Dead Boys, ensuite des Lords of the New Church. Et puis Guillaume Depardieu, peu de temps après son amputation, qui était venu dans les GG, c'était quelque chose d'assez... assez prenant avec Olivier, on avait été face à quelqu'un, on sentait de très 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 fragile. Et puis il y a une interview assez marrante de Renaud aussi qui venait d'avoir.
C'était pas le jour de l'inauguration du Zénith, c'est ça?
Non, non, de Renaud. Ouais. Je me souviens, il venait d'avoir l'échographie de. C'était il y a une dizaine d'années.
Kazan Malone.
Ouais, c'est ça. Il y avait l'échographie de du futur bébé de sa femme, donc il était là, il était très très ému. Et puis, parmi les personnalités politiques, alors là, il n'y en a aucune qui marquait sauf un, c'est Pierre Jox. Un jour, une interview de Pierre Jox en studio, qui avait été le ministre de l'Intérieur emblématique de François Mitterrand. Et j'ai rarement vu comme ça chez des gens l'incarnation de l'État. Voilà, les interviews qui m'ont, comme ça, à la volée, hein,
C'est bon, marqué. C'est un beau florilège. Je te pose la même question, Patrick Cohen. Il y en a eu des personnalités, mais il y en a forcément qui nous attachent le plus.
Politique, il m'est arrivé de suivre Mitterrand, là aussi, je suis assez vieux pour l'avoir fait dans des déplacements. Politique, Shimon Peres m'a marqué quelques années avant sa mort, un grand entretien quand il était venu...
Tu l'as fait à Paris
oui, à Paris. Et puis beaucoup de personnalités culturelles évidemment m'ont marqué. Je pense évidemment d'abord aux disparus, c'est à cela qu'on pense, et des grands disparus qu'on avait pris le temps de faire à France Inter quand j'y étais. J'ai un souvenir très vif de Trintignant que j'ai interviewé deux ou trois fois. C'est marrant, il avait un rapport à son métier, une humilité qui était fascinante. Il tournait énormément dans les années 70, il faisait 4, 5, 6 films par an, c'était énorme. Et des films dont je lui parlais, et il me disait, c'est bien ça? Oui.
Oui.
Oui, je vous assure, c'est bien. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai jamais vu. Il n'avait pas vu tous les films qu'il avait tournés. Voilà, c'était un type. Et puis à la radio, la voix de Trintignant, c'est quand même quelque chose de fascinant. Et puis, grand souvenir avec Godard, avec Jean-Luc Godard, qu'on était allé voir chez lui en Suisse, près de Lausanne. Et pour un grand entretien qui était prolongé pendant 2 heures, on avait eu beaucoup de mal à le couper ensuite, à le monter pour le diffuser dans la matinale de France Inter. Et puis à la fin, comme il nous avait posé un lapin une semaine plus tôt, on devait aller le voir, il avait retardé la date, etc. Mmh. Il prend son portefeuille et il sort. Il dit voilà, bon, je sais que je vous ai, on était venu en avion exprès par Genève, etc. Il sort un gros billet de 1 000 francs suisses, c'est énorme, 1 000 francs suisses. Mais non, on se récrie, non, enfin c'est le service public, on est... Non, prenez ça, évidemment j'ai jamais... Vous boirez des coups à ma santé, évidemment j'ai gardé le billet sans jamais le convertir.
Patrick, comment on prépare une interview de Jean-Luc Godard?
Celle de l'abbé Pierre dans un sex shop, tu l'avais fait comme cette interview.
Ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas.
En 1965.
Mais il est insortable.
À radio,
il est insortable. Mais qui l'a invité?
À Radio Poste Parisien. T'as pas fait l'abbé Pierre, toi, à l'époque.
Comment on prépare?
Tu l'as fait? Qui a interviewé l'abbé Pierre ici?
Non, pas fait.
Non.
Comment on prépare l'interview de Godard? On sait que c'est du freestyle et qu'on doit sujet à toutes les digressions possibles, mais bon voilà, on se nourrit, on relit de précédentes interviews, on regarde le truc, etc. Mais c'est amusant parce qu'il avait des centres de curiosité qui étaient très inattendus.
Tu parlais de Jean-Louis Trintignant, acteur admirable. Est-ce que tu t'es retrouvé devant un acteur ou une actrice, une personnalité où là tu te sens petit garçon et où le journaliste disparaît un peu derrière le fan, où tu as toujours réussi à garder
M'est arrivé une fois à Cannes. Interviewant Brad Pitt, qui avec lui arrivant d'une façon très simple et après l'interview ne disparaissant pas comme les stars, etc. Mais m'invitant à aller fumer une clope sur le balcon du palace où on faisait l'interview. Donc
on profite de ce moment.
C'est sympa.
Bruce Toussaint.
C'est bien, j'ai eu le temps de rassembler mes souvenirs, mais du coup j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si Patrick n'était pas dans les parages, parce que j'ai le souvenir d'une interview de Steven Spielberg à Cannes. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Je l'ai fait plusieurs fois, mais à Paris, pas à Cannes.
Alors moi je l'ai fait à Cannes et c'était très impressionnant. Il était président du jury et on avait un rendez-vous. Il donnait très très peu d'interviews. On avait un rendez-vous au Carlton et on arrive évidemment quelques minutes avant le rendez-vous et on nous dit vous inquiétez pas, il va arriver. Puis on attend un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie. Puis au bout de, je vais voir est-ce qu'il y a un problème, etc. Donc déjà, le simple fait que j'ose poser une question, c'était déjà très mal vu. Et finalement, il arrive au bout de 2h30. Bon, c'est un peu long quand même. Mais le mec était génial, et surtout l'après, je repense à ce que tu disais sur Brad Pitt, l'après était génial, parce que très disponible, on a fait plein de photos, il est resté, il a papoté. Moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, plein de gens. Moi j'ai une passion pour la chanson française, etc. Donc j'ai eu Henri Salvador, qui était pourtant pas considéré comme un type très facile, très sympa, mais moi je l'ai eu 3 fois, à chaque fois ça a été génial.
Il était un amour en studio.
Extraordinaire. Charles Aznavour, pas facile non plus, mais j'avais une grande passion pour lui. Et j'ai eu la chance d'avoir des très bons moments avec lui. Et je voudrais juste raconter 2 petites histoires, une bonne et une moins bonne. Moi, je suis pas journaliste politique, donc je considère que je suis journaliste généraliste. Et donc, quand j'étais à Europe 1 entre 2011 et 2013, j'ai dû faire pas mal de grandes interviews, au sens du format, de la longueur, pendant la campagne présidentielle de 2012, qui était une campagne vraiment très très tendue. Et Nicolas Sarkozy était président de la République. Et un matin, on lui avait proposé de faire les 2 heures, ce qui maintenant s'est complètement démocratisé. Mais il faisait les 2 heures comme tous les candidats.
Y compris avec Nicolas Canclot.
Absolument.
Il commentait tout.
Ouais. Il arrive à 6h30, très tôt, trop tôt d'ailleurs. Il n'y a personne pour l'accueillir.
Ouais, ça commence
donc,
bien.
Donc, il était président de la République. Hein. Ouais. Donc, déjà, il est d'une humeur, mais massacrante.
Ça, on peut le comprendre. Hein,
il rentre, on l'avait installé dans un bureau. Il y a sa maquilleuse, etc. Il y avait Franck Louvrier, son dircom, etc. Bon, c'est pas que ça compliqué, il aboyait. Bon, tout ça avant l'émission. Et moi, j'arrive, j'essaye de faire ça, je le connaissais pas très bien. Et je sens que ça va être un cauchemar absolu, parce que le gars est... Et donc, il me dit, alors de quoi on parle? Et moi, ce jour-là, on avait trouvé une station-service à Paris où le samplon était à 2 euros. On avait décidé d'en faire toutes nos ouvertures. Il me hurle
hurle dessus en me disant « Ah ben voilà, c'est ça les journalistes, vous avez trouvé une station et vous allez emmerder tout le monde avec ça. » À un moment donné, je ne savais plus quoi faire, les chefs n'arrivaient pas, enfin bon, c'était une catastrophe. Je décide, un peu, mais comme ça, comme une tentative désespérée, de lui parler de football. Mmh. Et là, d'un seul coup, il se calme, je lui parle du PSG, ce qui peut parfois sauver une vie.
La preuve.
Et d'un seul coup, il devient... Et on fait une émission géniale, parce que d'un seul coup, il s'est senti... Il est redescendu aussi vite qu'il était monté. Et honnêtement, c'était un grand moment, un grand souvenir, parce que 2 heures avec lui, à l'époque président de la République, il était... il a beaucoup donné, parce qu'il est tellement, parfois, en contre... Il est tellement sur la défensive par rapport, parce qu'il déteste les journalistes, enfin, c'est pas un secret, que là, il avait décidé, bon, puis Europe 1, il se sentait bien, faut quand même le dire aussi. Mmh. Deuxième petit souvenir, rencontre complètement ratée. Il y a quelques mois, j'ai l'occasion, pour la première fois de ma vie, de rencontrer Catherine Deneuve lors d'une interview pour le film Bernadette. Je vais voir le film, que je trouve super. Je prépare hyper bien l'interview, j'étais hyper content. Donc c'est un junket, comme on dit. Donc mmh. c'est 12 minutes dans un hôtel. J'arrive, elle a la gentillesse de me dire « Ah mais je vous reconnais, je vous regarde de temps en temps. » J'étais à BFM TV à l'époque. On commence l'interview, elle ne répond à aucune question. Mais quand je dis aucune, mes amis, aucune.
C'est-à-dire elle répond à côté ou elle répond pas?
Non, ça j'ai pas envie d'en parler. Mmh. Non, ça m'intéresse pas. Non, ça c'est machin. Donc au lieu de faire 12 minutes, ce qui me paraissait déjà très court, ouais. j'arrive péniblement à en faire 9.
D'où l'intérêt du direct.
Mais oui.
Ça n'arrive pas en direct.
On se lève, elle me dit à peine au revoir, je ressors, je me dis merde.
Une déception totale.
C'est peut-être la seule fois de ma vie que je la rencontre. J'ai une admiration folle pour son parcours, son talent. Rencontre ratée. Donc vous voyez, c'est souvent, ça se joue à pas grand chose en fait, ces rencontres-là.
Et moi j'ai commis un livre, après je te laisse la parole Patrick, avec Liane Folly sur nos femmes de cœur, et Liane qui est un compagnon de route aussi des Enfoirés, qui connaît tant cette famille, et donc nous évoquions nos femmes de cœur respectives, Véronique Colucci en faisait partie, et Catherine Deneuve pour ma part aussi, parce que moi à 12 ans, je tombe sous le charme absolu du dernier métro, c'est un choc pour moi cinématographique, mais un choc philosophique quoi, je vois ces deux monstres sacré, Deneuve et Depardieu, et je me dis un jour, si je suis journaliste, je rencontrerai cette femme, et ma vie de journaliste n'a été faite que de rendez-vous manqué avec Catherine Deneuve, parce que quand j'étais à Europe, tu l'as fait, ensuite Nicolas Stialiagas, ensuite Marc-Olivier Fogiel, je crois que Patrick, tu l'as fait aussi, puis Thomas Soto, et puis, bon, elle allait dans d'autres formats, elle avait ses marottes avec Laurent Delahousse à un moment donné, et je me souviens, à 12 ans, après ce choc du dernier métro, de lui faire porter au Lutetia, qui était son QG, son mauvais jeu de mots, une lettre d'admiratrice, quoi. J'étais toute jeune, mais je trouvais cette femme éblouissante. Donc, je n'ai jamais cessé d'aimer Deneuve, mais je ne l'ai jamais rencontrée.
C'est drôle.
Et bon, je ne désespère pas, elle est encore là. Vas-y, Patrick.
Non, elle peut être.
Elle peut être magique aussi.
Elle peut être charmante.
Je dis juste que j'ai deux bons
souvenirs à Europe et à France Inter de très bons moments avec Catherine Deneuve. Je croyais que tu allais nous parler plutôt de Brigitte Bardot.
Ah, moi, Brigitte, oui. Ma Brigitte.
Brigitte Bardot, tout de même. 90 ans. 90 ans depuis hier.
Et Brigitte, c'est vrai que pour moi, c'est un autre choix. Brigitte Bardot, vous vous souvenez de cette interview ravageuse sur France 3, on ne peut pas plaire à tout le monde, elle est en 2003 je crois, c'est l'émission spéciale pour Bardot. Elle a invité à la Madrague Marc-Olivier Fogiel, Ariane Massenet, tout a été bien pensé, etc. Puis il y a 2 heures de show en direct avec Bardot, qui à la fin
elle chantonne,
il y a Delon, c'est magnifique, c'est très fort, c'est une émission absolument réussie. Et à un moment, vous connaissez tous Marc-Olivier Fogiel, et à un moment donné il change de regard, Marco, parce que il sort un livre de dessous la table, Un cri dans le silence, qui est le livre que Bardot publie. Quelques jours après, probablement l'éditeur a décidé d'avancer la date de publication parce qu'il y a cette émission, il faut pas rater le coche. Et là, Bardot commence à changer de visage, parce qu'elle dit, mais ça, on avait dit qu'on n'en parlera pas, on n'en parlerait pas, Marco. On va terminer cette interview correctement, c'était joli, j'ai pas envie de gâcher ça, on refera une interview si vous voulez sur le livre, mais voilà. Et il énumère les trucs, parce que Bardot, elle écrit, c'est sa terminaison nerveuse, l'écriture. Donc elle écrit des mots qui restent, personne ne la corrige, elle fait ce qu'elle veut. Et parfois, elle pense brutalement, très violemment, et donc elle parle des opérations transsexuelles, elle mélange un peu pédophilie, homosexualité, c'est pas très clair.
C'est étranger.
Mais en fait, c'est pas le moment d'en parler, comme ça, à ce moment-là, bon bref. Et donc, elle est terrorisée, elle termine en larmes, cette émission. Voilà. Et moi, je me souviens, je suis dans ma chambre de bonne, je suis en train de réviser Léna, je crois, et je vois son petit poste, je vois Bardot en larmes, et je me dis, c'est pas possible. Et le lendemain, j'écris une lettre à la Fondation Bardot, elle a reçu 1,5 million de courriers dès le lendemain, je crois. Et donc on est en 2003 et elle ne veut plus parler à un journaliste. C'est mort, c'est fini. C'est fini. Et moi, j'entre en stage à Varmatin Saint-Tropez. Mais j'ai 23 ans, quoi. Je me dis, bah, moi, si je vais à Varmatin Saint-Tropez, ma meilleure amie est à Sainte-Maxime, je veux rencontrer Bardot. Parce que, en fait, je veux pas, je ne veux pas que l'opprobre soit lancé sur toute la profession. C'est injuste. C'est injuste. Et donc, je lui écris une lettre que je lui envoie par fax. Je trouve son numéro de fax dans les albums d'archives de Varmatin. Et manifestement, elle reçoit mon fax parce que le lendemain, je reçois un numéro masqué avec ce téléphone tout pourri qui est légendaire désormais. Ma petite Wendy, c'est Brigitte. Et là, je pensais à un canular, mais elle me parle et pendant une demi-heure, elle me parle. Moi, j'essaie de prendre des notes désespérément, me dire, mais je peux pas faire une interview. Et en fait, je lui dis, mais je suis tellement touchée que vous preniez le temps de conjurer un peu ce mauvais sort et de vous dire que bah tout n'est pas acheté, qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail. C'est pas que Marco l'a mal fait, mais c'était pas bien fait. Et bref, nous sommes en 2003 et le 28 septembre, moi je suis encore journaliste, et elle me fait appeler le matin par son mari, elle me dit est-ce que vous pouvez venir plage de l'Esquinade ce soir, on fait un petit truc. Et c'était l'anniversaire de Brigitte Bardot, elle avait donc 70 ans à l'époque et on est quatre. Il y a le patron du resto, l'Esquinade, Roger, son vieil ami où elle a fait 20 anniversaires, Bernard Dormal, son mari, moi-même et puis un autre ami. Et c'est pour moi incroyable parce que je suis toute jeune et je trinque au champagne avec Bardot qui buvait encore un peu de champagne à cette époque-là et qui est comme une grand-mère, quoi, magnifique. Et en fait, le masque tombe et je me dis, ben, il faut pas s'arrêter. Et ça m'a beaucoup appris ensuite dans ma carrière de choses sur les apparences, sur les raccourcis, sur les préjugés. Elle est beaucoup plus que ça et j'ai compris beaucoup de choses. On a beaucoup parlé. Ça fait 20 ans qu'on échange régulièrement avec Bardot. Pour ses 80 ans, tu étais là, je crois, Patrick. Ouais. Je vais à la Garrigue faire une belle interview d'elle. Elle m'ouvre ses portes. Elle n'était pas disposée cette année parce que c'est pas un anniversaire qui lui fait très plaisir, parce qu'elle est fatiguée, mais elle m'a dit, je préfère que vous veniez quelques jours après mon anniversaire. Ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me rendre. Donc j'irai dans quelques semaines. Mais on a un très bel échange et une très belle relation.
Histoire. Très belle histoire.
Oui, parce que je trouve que en fait ça. Et puis même professionnellement, de pas s'arrêter à ce qu'on dit, à ce qu'on lit d'une personne, parce que Brigitte, elle, puisqu'on parle de dons, elle donne à l'UNICEF énormément, elle aide énormément de personnes âgées, elle aide énormément en Afrique des enfants dans le besoin. C'est pas des choses dont elle parle parce que on l'a cantonnée à son rôle de défendeuse des animaux, défendresse, et c'est très bien. Mais elle est très généreuse et elle est dépouillée, mais ce qui lui reste, elle le donne aux autres. Ouais. Voilà. Et donc elle n'en fait pas cas. La pub, elle s'en fout. Elle est même à contre-courant perpétuellement et moi c'est quelqu'un que j'aime profondément parce que bon, on parle pas de politique ensemble et encore que en conscience politique elle n'en a pas vraiment hein, ce qu'elle dit, faut voter Marine Le Pen parce qu'elle a des couilles et qu'elle protège les animaux. Il suffit que Marine Le Pen dise que les animaux ne l'intéressent plus puis elle votera pas pour Marine Le Pen. Donc quand on a dépassé ça, quand on sait qu'elle est instinctive, qu'elle agit dans le réflexe, qu'elle... Puis vous savez, Bardot, elle reçoit toute la journée des lettres témoignant de l'indécence des hommes sur les animaux. Donc c'est... Elle vit dans un truc de maltraitance, de morbidité, etc., qu'elle essaye de conjurer parce qu'elle vit, parce qu'elle est combattante, etc., mais elle voit, elle lit des choses terribles, toute la journée, depuis 50 ans. Donc, je peux comprendre cette fragilité, cette faiblesse. Merci d'avoir donné l'occasion d'en parler.
Ah ben oui, quand même, ça m'a marqué oui. beaucoup depuis qu'on se connaît, Wendy. Ce lien avec Bardot me fascine et m'émeut en même temps, parce que évidemment c'est quelque chose de précieux. Et la défense des animaux, Bardot, c'est quelque chose qui l'habite depuis l'enfance, depuis l'adolescence.
Et puis elle est fidèle à ses causes et la preuve.
C'est génial parce qu'en fait, le début de notre discussion, c'est les gens qu'on admire en gros et qu'on a eu la chance de rencontrer. Et ce que je trouve formidable dans notre métier, c'est que parfois, c'est rare, mais ça arrive. En fait, nous devenons, par notre métier, notre mission, nous devenons en fait des personnes très importantes pour les gens qu'on peut admirer. Mmh. Parce que on va leur donner la parole à un moment très particulier, parce qu'on va avoir la possibilité de... Moi, j'ai des souvenirs d'interviews confessions, par exemple, c'est un peu le terme générique, de gens qui se sont retrouvés à vivre des choses et à dire des choses qui vont les marquer toute leur vie. J'ai interviewé Patrick Peloux le lendemain de l'attentat contre Charlie. Il est arrivé sur le plateau d'ITélé, il a pleuré de la première à la dernière seconde. Ça a été sans doute la plus grande non-interview que j'ai faite de tout mon parcours, puisque j'ai quasiment pas réussi à lui poser une question, il a quasiment pas réussi à faire une réponse. Ce jour-là, mon téléphone a explosé, Parce que vous savez, Charlie Hebdo, c'est un attentat sans image. C'est une catastrophe sans image. Et ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est en voyant Patrick Peloux pleurer que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe et que j'ai pris la mesure de l'horreur qui s'était produite. Donc parfois, on se retrouve à être des vecteurs en quelque sorte de moments de et de donner la parole à des gens qui vont vivre le plus grand moment de leur vie ou l'un des plus grands moments de oui. de leur vie. C'est pas rien quand même de se retrouver dans cette position. Moi, je suis très humble par rapport à ça. Je me dis en fait dans ces moments-là, il faut juste accompagner les gens. Il y a pas grand-chose à faire. Vous savez, souvent on est là, on cherche pendant des heures la grande question, la meilleure question. Et puis il y a des moment, il faut juste être là, et j'allais dire presque tenir la main de la personne qui est sur le point de vous dire
mais
quelque chose.
Mais à tel point que ça peut te métamorphoser. Moi, je sais que je ne serai pas journaliste toute ma vie, parce que je laisserai place à bien d'autres talents.
Parce que tu es très jeune.
Si tant est que j'en ai. Mais cette rencontre avec Bardot, moi qui aime les animaux, c'est une cause qui m'est chère, je sais que j'embrasserai cette cause et que ça sera une seconde vie. Et que je le ferai. Alors, et on a la chance, et je ne le fais pas avec prosélytisme, mais sur les différentes antennes que j'ai approchées, de pouvoir diffuser ces messages, de pouvoir relayer ces émissions et ces combats sur les animaux, de Bardot à Bougrain-Dubourg, que j'aime beaucoup, que j'avais fait venir à Europe. Mais voilà, il y a des gens qui sont fondateurs aussi dans une vie. Et je sais que moi, le point de bascule, c'est cette rencontre-là. Et qu'un jour, ce sera ma vie, par exemple. Donc, voilà, il y a des tournants.
Des rencontres qui marquent.
Des rencontres qui marquent.
La Madrague a trouvé son nouveau propriétaire.
Ah, voilà.
Alain, tu rabaisses tout.
Non, pas du tout. Parce que je sais que pas loin, il y a le refuge de Bardot. Il y a son refuge dans le Var aussi. C'est là où elle a ses animaux.
Donc, il faudra la Madrague
quelqu'un, une personnalité emblématique.
La Madrague et sa maison d'habitation, qui est en bord de mer, là où elle peut se baigner, là où il y a tous les étés des centaines de bateaux qui accostent pour essayer de voir Bardot, là où elle faisait la vaisselle dans la mer avec Gainsbourg, là où elle a reçu tous les grands, là où Alain Delon a vécu dans le garage à râteau, je sais pas quoi, de temps à autre, et dans les hauteurs de Saint-Tropez, à un quart d'heure, il y a la Garrigue.
C'est
une petite ferme.
C'est bien exposé, il y a des beaux volumes. C'est par rapport parce que
je vais te dire, tu serais sans doute.
Il y a beaucoup de rénovation à faire.
Attendez, parce
d'une part, la Madrague a été léguée totalement à la Fondation Bardot.
Oui,
la Garrigue le sera aussi.
Ça s'est arrangé.
Et alors, vous seriez étonné de l'authenticité, de la rusticité des lieux, parce que c'est resté dans son jus depuis 1960.
On peut mettre un barbecue.
Tout petit. Il n'y a même pas de clim. Voilà. Il y a la télé.
C'est pour
y a
faire
la
briller
radio.
Les animaux qui sont autour. Bravo, Alain.
Vous savez qu'il y a Thierry Marc qui arrive dans quelques instants.
Il gâche tout.
Voilà, en attendant, aller un peu de France Gall. Merci, les amis.
On parle d'animaux et tout ce qu'ils pensent à des barbecues.
Merci Douce France Gall, tout pour la musique, pour nous accompagner. Encore quelques minutes avec les amis Alain Marchal, Bruce Toussaint et Patrick Cohen avant de tendre le relais aux copains qui vont animer une édition intitulée, et justement, ça va vous faire saliver, le brunch. 13h, 15h, Philippe Liadeau notamment, Florian Henner aux commandes, Thierry Marx sera là, bah, vous allez pouvoir vous régaler les amis.
Les
grillades. Tiens Bruce Toussaint, c'est quoi le repas du dimanche midi idéal?
Poulet rôti.
Ouais.
Bon, ça c'est un classique. Ouais. Hein. Mais en fait ça, c'est un peu éclaté parce que les enfants sont grands maintenant, donc bon, le repas du dimanche midi il est moins institutionnalisé, voilà. Ouais. Donc c'est un peu, chacun se démerde.
D'accord. ça sent vraiment l'enthousiasme du dimanche.
Non, mais moi mes enfants sont grands aussi, je sais pas si mon fils va passer une tête aujourd'hui, peut-être, mais il y a ma fille de 27 ans qui vient déjeuner avec nous parce qu'elle aime, c'est une fine bouche, une fine gueule, et elle aime bien que papa aille chercher quelques bonnes bouteilles de vin de temps en temps. Et là, je crois que mon épouse, ma femme Cécile, que j'embrasse, a préparé un tagine.
Magnifique. Préparé... Donc toi, tu apportes le vin, Alain.
Très bien.
Et c'est, je suis, avant de venir vous rejoindre, je suis monté dans l'armoire à vin, j'ai attrapé deux bouteilles, j'ai mis sur le côté pour qu'elle soit à température.
Il n'y aura pas de me donner le code.
Patrick Cohen.
Moi, j'ai encore des enfants jeunes à la maison, ouais. 13 et 17, donc on fait, des repas en famille autant qu'il est possible de le faire
aujourd'hui.
Oui, ça va pas durer longtemps, ouais. Donc voilà, il y a des repas.
Bon, attends, petite parenthèse, tu nous rappelais que Brigitte Bardot a eu 90 ans, que Pierre Richard a eu 90 ans,
et
que vous avez fêté également début septembre l'anniversaire d'un homme si cher à ton cœur.
De mon papa, 90 de mon père, 90 ans aussi.
Et le mien aussi, cet été.
Ils sont tous nés en août et septembre 34. Ouais.
Et moi, le mien, juillet 34.
Ah ouais, ça c'est...
Un bel âge. Bien. Bon, qui a le sens aussi de la gastronomie, ton papa?
Oui.
Ouais. Ah ben nous, on a fait ça sur le port de Nice. On y était une trentaine,
ouais,
autour de lui, parce qu'il est encore actif avec ses copains. Alors petit à petit, tu sais, tu vois le nombre qui diminue, mais il est assez jouisseur. Il est content d'avoir réuni tout le monde autour de lui, et mon paternel, dès qu'il y a une perspective de bonne bouffe ou d'ouvrir une bouteille, il est là, quoi.
Ouais.
Donc, c'est de famille, ça.
Et une pensée pour Pierre Richard, qui est très en forme, qui fait des scènes, qui joue encore sur scène, et qui, dans quelques semaines, on est quoi, fin septembre, là, ou peut-être ça a commencé, qui doit tourner nouveau film,
c'est dingue,
comme réalisateur.
Ah ouais.
Chez lui, dans l'Hérault. Et c'est quand même une aventure assez extraordinaire.
Viticulteur,
90 ans, je crois.
Oui, absolument. Il fait son vin, je crois.
Il fait du vin.
Dans l'Hérault, en effet. Ouais, super.
Voilà, c'est beau.
Ah, la Florian qui arrive, Philippe Liadeau. On va se régaler, les amis. Bon, c'était un grand plaisir, vraiment, d'être associé à vous, Bruce Toussaint, Alain Marchal, Patrick Cohen. C'était bon.
Merci,
plaisir. Merci. Je vous retrouve demain sur RMC, 9h midi. Et sache que juste RMC, c'est la radio qui diffuse sur son site internet,
ça,
Radio Resto.
Bravo.
Voilà, on est partenaire, donc ça peut servir pour l'appel aux dons.
On se retrouve demain matin, Bruce Toussaint.
Oui, avec plaisir. Merci
à
encore.
7h-5. 7h-5. Bonjour sur TF1. Patrick.
7h42 ou 43,
sur
un
France
édito
Inter.
Politique sur Inter, voilà.
Ouais. Ben merci beaucoup.
Merci, c'est
Radio
un plaisir.
Resto pour les petits bouts de chou là qui sont démunis et dont pour lesquels les parents ont beaucoup de cœur mais pas assez de moyens pour les élever comme il faut. Et bien les Restos du Cœur, les bébés restos, les 70 bébés restos sont là pour les aider. 126 000 bouts de chou entre 0 et 3 ans qui ont besoin de vous, de vos dons, et je suis ravie de vous annoncer la cagnotte du moment. On est à 406 255 euros collectés sur notre objectif de 450 000 euros. On a 90% de ce biberon qui s'affiche sur radio.restoducœur.org pour vos dons, les amis. Et on va vous rappeler qu'un don de 100 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois, que 50 000 euros, et on les a largement dépassés, c'est 100 bébés accompagnés pendant un an. Merci
grâce à Bruce Toussaint.
Ouais,
est-ce qu'on peut reprendre le sujet de la côte de bœuf, s'il vous plaît?
Tu as vu comment on l'a amorcé?
Il y a un petit délire sur la braise.
C'est bon, là, sur la braise, sur la plancha, c'est ce que tu veux.
On va continuer, on va passer sur le poisson. Nous.
Merci à Kenny, avec nous. Merci à Shannon qui était au standard, à Fabrice qui nous a appelé, à tous les amis de Ligentia, merci de nous accueillir dans vos magnifiques locaux. Merci au grand orchestrateur Laurent Petit-Guillaume qui relaie cette magnifique et noble cause de solidarité qui nous a associés de nouveau aujourd'hui. Un plaisir, et il est bientôt 13h. L'info.
Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir.